Bonsoir, public aimé.
Oh, que c'est gentil.
C'est joli, hein. Ah, bonsoir aussi, tout spécialement, aux auditeurs qui écoutent dans leur automobile à pétrole. Parce que j'ai découvert, par des confidences successives et réitérées, que beaucoup d'auditeurs écoutaient la radiophonie dans leurs automobiles à pétrole.
C'est ceux qui bloquent à l'entrée des tunnels.
Parce mais ça reste...
disent, attendez, je voudrais savoir ce qu'il va dire après.
Alors, je leur dis bonsoir, roulez prudemment. Ne faites pas comme l'imbécile qui me suivait tout à l'heure sur le périphérique où j'étais disciplinairement à 80 km/h et qui me faisait des appels de phare parce qu'il trouvait que j'allais pas assez vite alors que c'est la vitesse maximum. Et voilà, c'est tout. C'était un conseil de la prévention routière. Le courrier. Alors d'abord, le déroulement de la soirée. On va parler d'actualité et ensuite, on va parler de choses amusantes et joyeuses. On va parler de la mort et puis on va parler de l'almanach Vermeaux, dans l'ordre. Bah oui, en fait.
Vous rirez d'abord, vous rirez ensuite.
Voilà. Et puis ensuite, on recevra Jean-François Delinda qui nous parlera de la journée de renaissance du cercle Renaissance consacré à l'armée d'Afrique. Et Marc Demme qui nous fera un petit aperçu de l'actualité religieuse. On va parler de la mort à propos d'un livre qui est tout à fait intéressant. Alors, bien sûr, on n'est pas mort de rire, ça c'est sûr, mais qui est une espèce de guide. Du deuil, guide du décès, du deuil, parce que c'est des choses qui arrivent, vous savez qu'on va tous mourir, vous êtes au courant.
Oui.
Je sais pas si... Non, mais je préfère vous le dire, parce qu'apparemment, il y a beaucoup de gens qui, à leur comportement, donneraient à penser qu'ils n'en savent rien.
Non, mais là, c'est voilà. Pas tellement pour celui qui va mourir, celui-là, il a pas besoin de conseils, il subit les choses.
Si, c'est à lire avant de mourir, bien sûr, parce qu'une fois qu'il sera mort, il pourra plus le lire.
Non, c'est pour ceux qui restent et qui sont autour et qui disent, non, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Je pense toujours.
Alors, c'est un beau livre paru chez Guy Trédaniel, mais très intéressant, vous verrez, alors on invite, il a été fait par cinq dames voilà. Qui ont mis 4 ans à élaborer cet ouvrage. C'est donc quelque chose de sérieux. Mais avant de tout ça, on va parler de l'actualité. J'ai reçu une lettre. Alors je ne sais pas si c'est vrai, mais je ne vois pas pourquoi il aurait menti cet homme-là. C'est un monsieur, un correspondant, qui ne signe pas de son nom. Alors, en général, je ne tiens pas compte de ces courriers-là, mais là, il signe de ce qui est presque un nom. Un des petits-neveux de Jean Guiton, dit-il. Alors voilà la lettre. Marc Demme a cité Jean Guiton en des termes peu respectueux à propos d'un éventuel successeur du pape. Pourriez-vous citer la source exacte des confidences de Jean Guiton? À quel journal a-t-il donné une interview? Sans doute pas à présent, dit ce petit neveu. Vous ne devriez pas vous moquer ainsi de Jean Guiton, qui est le plus grand philosophe catholique vivant du XXe siècle, et qui, même s'il s'est battu toute sa vie pour faire évoluer la religion catholique et l'adapter au monde moderne, ce que vous n'acceptez visiblement pas, a toujours manifesté de la considération et du respect envers les traditionalistes. Il était par ailleurs un des amis de votre cher Monseigneur Lefebvre qu'il a reçu chez lui à plusieurs reprises. Je pense que Serge de Beckett, qui dit Serge la grande gueule, apprécie quand même plus les idées de Jean Guiton que celles de Monseigneur Jacques Gaillot, évêque provocateur d'Évreux.
Oui, ça je veux bien le croire. Mais vous l'avez reçu, Monsieur Guiton, ici.
Oui,
j'en ai gardé un très bon souvenir.
Non, mais, c'est toujours la même chose, c'est toujours cette même difficulté de faire comprendre aux gens en général, enfin aux auditeurs en général, quels qu'ils soient, qu'on n'est pas obligatoirement confié en respect, en dévotion. Quand j'appelle Lustiger Lulu, c'est pas par c'est ni par haine ni par mépris, c'est pour rire un peu.
Gentil, bon, quand même.
J'appelais bien Monseigneur Lefebvre Marcel et ça c'était pas dans ma tête un manque de respect, c'était au contraire Jean Guiton, bon, c'est un personnage éminent, c'est un personnage considérable, mais c'est aussi un personnage qui justement par ses dimensions intellectuelles, par son importance et par la prolificité de son écriture, a une dimension comique, c'est pas discutable. On peut taquiner un peu, ça ne veut pas dire qu'on le voue aux hégémonies, comme disent les analphabètes. Voilà ce que je voulais dire. L'actualité, alors maintenant, comme on ne fait pas de mini-journal pour des raisons pratiques, pour l'actualité, je ne me brosse pas, comme on dit élégamment, je pique carrément dans le présent. Et l'avantage, c'est que c'est succinct, généralement bien écrit. Alors, il y a dans présent, qui est paru à midi et que vous trouverez demain matin dans les kiosques, un article...
Mais non, ce soir, à Paris, dans les kiosques.
Dans les kiosques, oui, pardon.
Que
vous recevrez si vous êtes abonné demain matin, comme moi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime pas le jeudi matin, parce que quand j'ouvre ma boîte aux lettres et que je prends présent, je l'ai déjà lu la veille. Et j'ai une espèce de frustration. Non, c'est vrai. Hein. Alors voilà. Il y a un article des articles d'Yves Daoudal et Rémi Fontaine sur le jeunisme baladurien. Alors,
le jeunisme.
Je sais que M. Balladur a pris 29 mesures. Il y en avait 57 qui étaient proposées. Il en a écarté 28, reste 29, qui vont régler le problème de la jeunesse. Par exemple, les jeunes vont pouvoir maintenant, à partir de 18 ans, être conseiller régional et maire. Alors, c'est pas indiqué, mais je pense que c'est quand même à condition de savoir écrire. J'espère. On va créer aussi des instances de médiation entre les jeunes et les pas jeunes. C'est-à-dire que dans les mairies, les écoles et les commissariats, et Rémi Fontaine écrit, pour mieux communiquer avec cette peuplade immature séparée du monde des adultes. Interlocuteur privilégié dans les commissariats, médiateur chargé des problèmes de la jeunesse dans les mairies, personnel spécialisé dans les écoles, il y aura des numéros d'appel spécifiques de téléphone pour l'écoute individualisée des jeunes en matière de santé et de service national. Vous appellerez, vous direz, allô, bonjour, je tousse. Ah, mais êtes-vous jeune, monsieur? Ben, j'ai 48 ans. Ah non, monsieur, on peut rien faire pour vous, vous pouvez crever. Il faut avoir moins de... Alors, qu'est-ce que c'est qu'un jeune? Moins de 18 ans, puisque à partir de 18 ans, ils ont le droit d'être maire et conseiller général. Vous voyez, conseiller général jeune, c'est pas possible. Conseiller général, c'est vieux, ventripotent. Ça a généralement un costume trois pièces. Si, c'est vrai.
Autrefois.
Non, on va entendre les discours maintenant dans les... Dans les... Comment appelle-t-on ça? Les conseils généraux. Hein, c'est ça, les conseils généraux. On va entendre les discours. Ce rapport, pourquoi qu'on ne va pas ouvrir la piscine demain? Voilà. C'est pas mieux? Non, c'est pas mieux actuellement, c'est vrai. Cet après-midi, j'ai encore regardé la 3 et les débats à l'Assemblée nationale. Mais c'est déshonorant, hein, je vous conseille de...
Ah bon?
Si vous êtes un peu démocrate et si vous avez un peu d'estime pour les députés, la meilleure médecine, c'est de les regarder. C'est totalement déshonorant.
Qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui?
Ah ben, n'importe quoi. Il y en a un qui expliquait, c'est Monsieur Petit, qui est sympathique d'ailleurs, qui est de la Martinique, je crois. Il expliquait à Monsieur Balladur, il a dit, Monsieur Balladur, les difficultés actuelles de la Martinique, qui est un pays de 42% de chômeurs, sont dues au fait que les banques ne prêtent plus d'argent, ou prêtent l'argent 2% plus cher qu'en métropole. Je vous demande ce que vous êtes prêt à faire pour aider les banques. C'est bien les députés comme ça. Hein? Qu'est-ce que vous allez faire pour aider les banques dans un pays où il y a 42% de chômeurs?
Qu'a-t-il répondu?
Là, j'ai craqué, j'ai éteint.
Vous avez éteint.
Je ne pouvais plus. Juste avant, je m'étais tapé, si j'ose dire, M. Glavany. Glavany, c'est quelque chose, vous savez. Mm-hmm. Ah oui.
Je trouve que c'est surtout soporifique.
Et on voyait Malvy aussi. M. Malvy, qui ressemble de plus en plus à son grand-père. Il a une moustache en moins. Enfin voilà, tout ça pour vous dire, vive le Parlement, vive la République. Il y a un article dans Présent de Caroline Parmentier qui explique que le métro est de moins en moins sûr. Et alors les chiffres qu'elle donne, c'est effrayant. C'est-à-dire pratiquement, quand vous prenez le métro, il devrait y avoir, vous savez, dans le temps, je ne sais pas si ça existe toujours, mais dans le temps, ça doit exister. Dans les aéroports, il y avait des distributeurs d'assurance vie. Ça existe toujours, voilà. Eh bien, on devrait faire ça dans le métro maintenant. C'est-à-dire qu'il devrait y avoir un système, moi je serais assez pour, vous avez votre carte orange, et quand vous glissez votre ticket, automatiquement, l'ordinateur central de la RATP vous prend une assurance vie pour une demi-heure, ou une heure, quoi, la durée moyenne d'un trajet. Ça va devenir indispensable parce que, écoutez ça, les agressions contre les voyages... Alors, l'analyse en chiffres de la RATP, dit Caroline Parmentier, ne laisse planer aucun doute. L'ensemble des actes délictueux a augmenté en 93 de 7%, passant de 6011 en 92 à 6426 en 93. Les agressions contre les voyageurs ont grimpé de 4%. Les vols à l'arraché ont littéralement explosé, plus de 40%. Même courbe ascendante pour les vols à la tire, pickpocket. D'ailleurs, maintenant, quand on prend le métro, dans les stations, vous entendez des...
Attention, les pickpockets voilà, sont en train de sévir.
Voilà. Seuls les vols avec violence, avec ou sans armes, affichent une tendance à la baisse. Mais il reste cependant, excusez du peu, de l'ordre de 740 agressions par an. C'est beaucoup, hein. Ça fait deux par jour, quand même. Les bus ne sont pas épargnés. Voilà. Donc, avant de prendre le métro, un petit testament, un une petite assurance vie et vous êtes tranquille. D'ailleurs, on va parler tout à l'heure de la question des testaments. On demandera à ces dames si elles ont imaginé un système de testament pour le métro. La Fédération CGT des personnels et organismes sociaux de la Fédération FO des employés et cadres appelle les 180 000 salariés de la Sécurité sociale à une journée d'arrêt de travail, de grève et de manifestation. C'est vrai, moi je les comprends d'ailleurs parce que c'est épuisant, la Sécurité sociale. Vous, quand vous allez dans les bureaux de la Sécu, vous les voyez... Moi je suis admiratif, hein. Entre... des fois il y a 10, 20, 30 mètres à faire pour aller jusqu'à la machine à café. Il n'y a rien n'est prévu pour s'asseoir pendant qu'on bavarde avec les collègues en buvant son café. Donc, ils sont obligés de rester debout à côté des machines à café pendant des 10, 20 minutes à boire leur café en bavardant. C'est épuisant, ça donne des varices et tout, c'est horrible. Donc, mettez, il faut faire des salons, bon, etc. D'abord, les gens qui attendent, ils sont assis, eux, hein. Quand vous allez porter un dossier, des fois que vous attendez 3-4 heures, vous êtes assis.
Oui, hein, oui.
Vous avez un ticket numéroté et vous attendez qu'on appelle votre nom. Candet 63, etc. Bon, vous connaissez, vous avez déjà entendu. Et vous venez apporter votre dossier, là on le prend, on dit, il n'est pas complet. Et hop, on vous rend le dossier et vous rentrez chez vous. Donc c'est normal qu'ils se mettent en grève en coïncidence avec la journée d'action nationale FO-CGT dans le secteur public. Moi je comprends que les fonctionnaires se mettent en grève. Il y aura la mobilisation des personnels de finance, de l'enseignement, des PTT, des hôpitaux, de l'équipement et des chemins de fer. C'est le 23 novembre.
Oh mon Dieu Seigneur. Voilà.
Comment, qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est votre anniversaire, c'est l'anniversaire de Philippe Barlet. Je le signale
7,
à nos auditeurs.
23.
Qui voudraient.
C'est mercredi, eh ben, ça va être gai pour venir mercredi.
Privatisation, le ministère de l'Industrie a indiqué que l'appel d'offres qui doit permettre aux candidats à la privatisation du groupe informatique Bulle, de se déclarer officiellement devrait être lancé dans les prochains jours. Ils sont en train de vendre des meubles. Hein. Vous allez voir, bientôt, ils vont arracher les parquets lambrissés des ministères pour les vendre à la sortie. Achetez nos parquets, ils sont beaux.
Ils sont beaux. Ouais.
C'est vraiment la faillite. L'indice INSEE de la production industrielle du bâtiment a progressé de 3% au deuxième trimestre après 0,9% au premier trimestre. De 3% au deuxième trimestre après 0,9% au premier trimestre. C'est toujours des informations rassemblées par Evelyne Fraisse dans Présent, que je cite. Les progressions les plus prononcées concernent la branche automobile et les biens d'équipement ménager, avec une hausse de 11,1% contre 9,1% au premier trimestre. Donc c'est bien ça, la crise est finie.
Mm-hmm.
On est bien d'accord.
Terminé, allez.
Les seuls qui sont au courant, c'est les chômeurs. Drogue. Les services douaniers de Calais ont saisi samedi quelques 27 560 cachets d'extasie. Les amphétamines qui provenaient des Pays-Bas étaient destinées au Royaume-Uni. Ben de quoi on se mêle?
Puisque c'était pour le Royaume-Uni.
En plus, c'est pour pourrir la vie des Anglais. Je vois vraiment pas pourquoi on a empêché ça. C'est maladroit. Cette saisie porte à 201 986 le nombre de cachets d'ecstasy découverts par les douanes françaises sur les 11 premiers mois de l'année 94, soit une augmentation de plus de 50% par rapport à l'ensemble de 93. Là, je voudrais faire un tout petit commentaire là-dessus. C'est que on interdit l'ecstasy, on arrête les gens qui en trafiquent et les gens qui en consomment. Hein. Donc, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Eh bien, ils vont consommer des produits, comment dirais-je, produits pharmaceutiques, des choses qui rendent joyeux.
Oui.
Comment ça s'appelle? Les produits qu'on prend qui ne sont pas des
somnifères. Les amphétamines?
Non, pas les amphétamines, des choses comme... citer de marque, mais non.
Je cherche,
les produits contre l'angoisse, les produits contre l'énervement.
Les antidépresseurs.
Hein, les antidépresseurs. Voilà. Donc comment on, et alors là, ils se font rembourser par la sécurité sociale. Donc c'est pas une bonne solution. Laissez donc, monsieur Pasqua, laissez les gens consommer de l'ecstasy. Après tout, si ça leur plaît.
Oui, mais moi, je parle méchant du... quand ils ont pris ça.
Non, pas du tout. Il paraît que ça rend gay, complètement idiot. C'est-à-dire, bon, quand
c'est
on...
C'est-à-dire
quand...
qu'ils vous en général... tranquillement, croyant vous faire une petite carte.
Non. En général, les consommateurs sont déjà complètement abrutis, donc ça change rien à leur état. Simplement, ils sont visiblement plus contents. Puis après tout, si ça les amuse, tant mieux. Et si c'est en plus dangereux, moi, je suis tout à fait pour. Vous comprenez, c'est comme les comportements qu'on appelait au 17e ou au 18e siècle, antiphysiques, au moins, ils ne se reproduisent pas. Eh bien, les drogués, une fois qu'ils sont morts, ils ne droguent plus. Puis ils n'embêtent plus le monde, quoi. Donc, il faut laisser faire. C'est mon opinion de chrétien. Pas voilà. Progressiste.
Vous avez le droit.
Voilà une erreur technique. L'adjudant-chef Pierre Chanal a tenté de se suicider après avoir reçu la notification d'une nouvelle mise en examen pour homicide volontaire dans le cadre de l'affaire Trevor O'Keefe, du nom d'un autostoppeur irlandais âgé de 20 ans dont le corps a été retrouvé en 87 près de d'Alincourt dans l'Aisne. L'adjudant Pierre Chanal purge actuellement les derniers jours d'une peine de 10 ans de réclusion criminelle pour le viol d'un autostoppeur hongrois. Alors on a empêché Chanel de se suicider, mais pourquoi? Pour juste lui faire un procès qui va durer 5 ans, qui va coûter une fortune à la collectivité et tout. Si lui il considère qu'il mérite plus de vivre, il faut surtout pas l'empêcher de mettre son propre verdict à exécution. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, j'en pense rien.
Rien du tout. Bon, c'est bien. Non, au moins, elle sait se tenir. C'est une femme. Elle prend la mesure de son incapacité à juger des faits importants. Ah, voilà, le téléphone va exploser.
De quoi parliez-vous?
Oui, mais j'avais pas dit à nos auditeurs que vous étiez merveilleusement coiffée.
Ah.
Vous êtes un ange de beauté.
Ah.
Hein? Elle a une coiffure qui est en harmonie avec sa voix.
Je décolle de mon siège.
Elle a une coiffure mellifluée, c'est-à-dire de la couleur d'un miel de fleurs blanches. Mellifluée, voilà. Le procureur de la République a requis mardi 18 mois de prison avec sursis et une interdiction pendant 5 ans de droit de vote et d'éligibilité à l'encontre de Bernard Bouliac, ex-président socialiste du Conseil général de Dordogne, qui comparait depuis lundi à Bergerac pour ingérence. Le docteur Bouliac est poursuivi pour avoir fait octroyer une subvention de 535 000 francs au club Léo Lagrange de Bergerac, subvention qui a en fait été versée pour partie à une société du docteur Belin, l'ancien président du club. Et allez donc, c'est pas mon père, comme disait Fedot. Et une subvention de 260 000 francs au journal de la Dordogne, hebdomadaire d'opinion proche du Parti Socialiste, et dont Bernard Bouliac est actionnaire. Vous voyez, il se brosse pas non plus, là. Ils ont un sens, c'est ce qu'on appelle le civisme. L'autre jour, j'avais pas de vignette sur mon automobile à pétrole, j'ai été arrêté par un représentant de l'ordre qui m'a adressé contravention pour défaut de vignette et qui m'a fait la morale.
C'est la vignette de l'année dernière,
oui.
Que vous n'aviez pas?
Non, je l'achète pas, moi. C'est un principe fondamental, je n'achète pas.
Ah.
Et donc, ce monsieur m'a fait la morale, il m'a dit que je n'étais pas civique. Alors j'ai dit, écoutez, arrêtez, vous allez me faire rire, c'est dangereux en conduisant, parce que parler de civisme dans un pays où en gros, les parlementaires et les ministres qui sont pas en prison sont sur le point d'y aller, c'est quand même un petit peu abusif quand il s'agit simplement du refus catégorique et politique d'acheter la vignette. Alors il est parti fâché. Le cardinal Roger Echegaray, président de la commission pontificale paix et justice, est arrivé mardi soir à La Havane pour une visite de 4 jours au cours de laquelle serait notamment évoqué le problème de l'aide humanitaire à Cuba. Voilà. C'est juste, oui, on laisse crever les Irakiens, hein, qui crèvent par centaines, on sait maintenant par milliers, on a parlé de génocide en Irak, de génocide par blocus, mais pour le grand barbu, comment c'était la chanson déjà? Je sais plus, alors sur le grand barbu. En tout cas pour le grand barbu de Cuba, qui est un des pires assassins communistes que la Terre ait porté, et un des derniers survivants, eh bien, on va lui apporter une aide humanitaire, et c'est le cardinal Echegaray qui servira d'intermédiaire. C'est une bonne nouvelle. Et puis il y a une autre nouvelle que j'attendais depuis un certain temps parce que ça me fait rire. C'est Monsieur Bocuse qui a perdu une étoile dans le Bottin gourmand et qui ne figure donc plus au sommet de la gastronomie. Sa place est prise par Jacques Chameloise, restaurateur à Chagny. Alors je rigole parce que j'étais sûr, Bocuse avait trop de succès, ça ne pouvait pas durer. C'était sûr qu'un jour ou l'autre, il y a un méchant qui allait le triquer. C'est fait. Voilà les informations importantes. Enfin, les informations qui sont dans le présent, en tout cas. Il y a plein d'articles, attention, dans le présent aussi, comme d'habitude. Passionnant. Je vous rappelle que si vous voulez vous abonner, c'est 5 rue d'Amboise, 75001, Paris. Voilà. Et puis, si vous voulez vous abonner au Libre Journal, c'est 100 francs pour 4 numéros, pour faire connaissance. Et l'adresse, c'est 139 boulevard de Magenta, 75010, Paris. Et puis, vous pouvez également vous abonner à National Hebdo, mais si vous n'êtes pas abonné, si vous n'avez pas l'intention de vous abonner, il faut acheter dans les kiosques le numéro qui sera présent demain. Enfin, qui sera présent, le numéro de National Hebdo. Car si vous n'avez jamais lu, Brignot, c'est le moment ou jamais. Je ne vous dis pas, il a fait un éditorial qui, à mon avis, mériterait d'être gravé. Enfin, un journal d'un homme libre qui mériterait d'être gravé dans le marbre le plus dur pour durer des siècles. Car il est dit des choses importantes et définitives que je vous laisse le plaisir de découvrir dans National Hebdo. C'est demain et c'est dans les kiosques. Mais en revanche, je vais vous lire un extrait de l'article de Madame Cruz, alias Mathilde, la belle Mathilde, à propos de l'heure de vérité. de Jean-Marie Le Pen. Vous savez que Jean-Marie Le Pen a été invité à l'heure de vérité.
Je l'ai même regardé.
Ça a été un moment, je ne vous dis
agréable.
Pas. Agréable. Oh, quel bonheur. Quel bonheur. Et alors, voilà. Et Mathilde écrit, alors Duhamel, Colombani, l'oblique et suffisant directeur du Monde, arborait ses couleurs, il était jaune, chafouin et contourné, il avait préparé sa fille. Son père, enfin, c'est lui, Mathilde Creuse, dont le style fait parfois penser à celui de Brignot.
C'est son élève.
Ah, c'est ça.
C'est sa collaboratrice.
C'est lui qui l'a formée. Alors, elle est pratiquement née de ses œuvres, on pourrait dire.
Oh, c'est un peu beaucoup,
c'est
là.
C'est tatoué. Et alors, elle dit, Mathilde, enfin, il y avait une nouvelle recrue de M. de Virieux que je ne connaissais pas, Elisabeth Chemla du Nouvel Observateur, on aurait pu s'en douter. Elisabeth Chemla montrait un visage ingrat et sombre. Même au début du round, elle avait l'air du vieux boxeur qui a fait un match de trop. Elle portait le poids d'un surentraînement, elle s'était trop préparée. Elle avait lu toute la littérature anti-Le Pen, c'est copieux et lourd, pour trouver l'ignominie de la pensée nationaliste. Elle avait dépêché un coursier 5 rue d'Amboise pour acheter les 50 derniers numéros de Présent. Elle croyait donc être armée. Ce fut désarmant. On avait dit à Elisabeth Chemla que Le Pen était moins fort sur les chiffres que sur les lettres. Elle attaqua donc en férocité et se retrouva devant des tableaux graphiques où des courbes qui étaient des droites au menton fixaient le naufrage de la 5e République. Écœurée, elle se rabattit sur l'immigration où Jean-Marie l'attendait ferré à glace. Quand il parut à tous qu'une des conditions de l'abaissement du nombre des chômeurs passait par l'abaissement du nombre des immigrés, Elisabeth Chemla préféra rentrer à la maison en grommelant « c'est du racisme ». Évidemment, ça, c'était sans réplique. Et Mathilde Creuse ajoute « Mais j'ai surtout été frappé par le visage grave de Marine Le Pen. On évoquait les atteintes à la vie privée, celles qui venaient de frapper le président de la République. » Le président du Front National rappela celles qui frappèrent Le Pen et sa famille, sans susciter aucune émotion. Marine Le Pen hochait la tête avec tristesse, cela serrait le cœur. Voilà. Et puis il y a une autre raison de lire le prochain numéro de National Hebdo, c'est que, et je m'en flatte, National Hebdo m'a piqué Jean-Marc Leroux. On le garde au Libre Journal, le dessinateur, c'est sûr. Mais ils lui ont trouvé du talent.
Oui, probablement.
Ouais, oui. Et alors, il fait une petite bande dessinée qui est rigolote comme tout, et dont le personnage principal est un fou, ce qu'on appelait
Le ravi de la crèche.
Un turlupin. Non, non, pas
ah
un,
non,
un,
ravi.
Un turlupin. Enfin, c'est le fou, le fou.
Ah, le fou, oui, d'accord.
Fou du roi. Voilà, et vous verrez, c'est très amusant, et c'est très joliment dessiné, en plus. Voilà, donc, lisez National Hebdo toutes les semaines, présent tous les jours, et vous vivrez heureux et vieux, et donc vous retarderez le jour où vos amis et parents auront besoin de lire le livre « Assumer un décès et un deuil ». Mais avant de venir à ce livre...
Tout de suite, je reçois un message extraordinaire. Patrick Sébastien, ou un de ses proches, doit être abonné au journal de Serge de Bekech. Dans l'émission Super Nana et Télé Dimanche, il en a été question.
Il en a parlé dans Super Nana aussi.
Ah bon ?
Je ne savais pas. Non, moi, j'ai entendu en parler dans Télé Dimanche. Et d'ailleurs, c'est une histoire assez amusante, enfin, j'en parle comme ça, puisque vous évoquez la chose. C'est qu'il est venu, effectivement, dans l'émission de Télé Dimanche de Denis Zot, et il a dit qu'il préparait une nouvelle émission qui s'appellera Les Vieux de la Veille, et qui sera, a-t-il dit, une rupture avec les émissions vulgaires dont j'étais devenu le chantre à la télévision. C'est lui qui dit ça.
Oui, oui, oui.
Il dit, j'ai décidé d'arrêter le vulgaire, d'une part parce que j'en suis fatigué, d'autre part parce que tout le monde fait ça à la télévision maintenant, et puis troisièmement parce qu'on a beau dire qu'on se fout des attaques de la presse, ça finit quand même par faire mal. Et il ajoute, le Libre Journal de la France Courtoise a dit que mon émission était une serpillière et une sanie. J'ai pas dit ça exactement, mais c'est pas le problème. Mais c'est quand même extraordinaire de penser que, vous voyez, on croit que ça sert à rien ce qu'on écrit.
Ben vous voyez que vous ne prêchez pas dans le désert.
Là, on a fait venir un petit coin de ciel bleu à la télévision. C'est-à-dire qu'effectivement, si les émissions... Moi, j'ai rien contre Sébastien. Il a du talent, c'est pas discutable. Mais il fait, en général, des cochonneries. C'est vrai que Super Nana et Super Mec, sont des émissions révulsantes de vulgarité. Et en plus d'une vulgarité méchante, agressive, terrible, vous vous rendez compte que l'invité de la dernière émission, c'était... la mère Claude, la plus grande mère maquerelle de l'après-guerre. Mais qu'est-ce qu'on a montré une bonne femme immonde comme ça? C'est répugnant, cette marchande de chair fraîche qu'on invite à la télévision.
Philippe n'a pas l'air choqué du tout.
Pas du tout. Non, mais alors, on lui donne un statut médiatique, on lui donne un statut de vedette. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? C'est insupportable. On ne peut pas accepter ça. Alors donc, je dis que je ne l'accepte pas. Voilà. Et ben voilà, c'est tout ce que je voulais dire à propos de ça. Je voulais en revanche, à propos des infractions dont on parlait tout à l'heure, vous lire un truc que j'ai, enfin, quelque chose que j'ai relevé dans Le Monde, et qui est quand même assez drôle. Il y a un papier, une étude, le titre c'est « Une étude du ministère de la Justice relativise l'ampleur de la récidive ». Alors on voit, ça c'est un papier qui est typiquement dans le style, comment dirais-je, du néo-juridisme, ou d'une nouvelle approche branchée des problèmes judiciaires. Il s'agit de démontrer que tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, ce n'est pas vrai, et que, par exemple, quand on parle de récidive, c'est beaucoup moins grave qu'on pourrait le penser. Et alors, cet article est résumé de la façon suivante. En fait, on ne parle pas de la récidive en soi, on parle des faits graves dans la récidive. Est-ce que je suis clair? Alors, il y a un tableau qui explique que, en gros, 72% des auteurs de vols simples récidivent dans les 4 années qui suivent leur libération.
Donc ça?
Ouais. Mais, nous dit Le Monde, ça, le taux de nouvelles infractions, c'est 72%. Mais ils disent, infraction grave, entre parenthèses, atteinte aux personnes sanctionnées par une peine de prison de plus de 3 ans, c'est 2%. Donc c'est pas grave, en fait, vous me suivez? La récidive dans le vol simple. C'est vrai qu'il y a 72% de récidives, mais il y a quand même 70% des récidives qui sont pas graves du tout. Il y en a que 2% qui sont graves. Vol qualifié, 59% de récidives dans les 4 ans qui suivent la libération, 4% de récidives graves. Coups et blessures volontaires, 51%, 5% de récidives graves seulement. Donc, vous avez quand même... Quand vous vous faites matraquer au détour d'une rue par un récidiviste, vous avez quand même 46% de chances que ce soit pas grave. Je veux dire, pas grave pour lui. Attention. C'est pour vous, c'est toujours aussi grave. Viol, 38% de récidive dans les 4 ans qui suivent la libération du détenu, dont seulement 4%. C'est des viols pas graves, le reste. Vous avez 34,5% de viols pas graves.
De quoi se plaint-on?
Et alors, le plus joli de tout, là, je vous le donne comme ça me vient, c'est inscrit dans Le Monde, hein. Source, ministère de la Justice, page 14, Le Monde du jeudi 17 novembre 94, rubrique Société. Et le titre exact, c'est « Contredisant les affirmations des responsables politiques, suivez mon regard, hein, une étude du ministère de la Justice relativise l'ampleur de la récidive des condamnés. » Je suis bien clair, on comprend
très,
ce que...
Très, très clair.
Alors écoutez maintenant ce que je vais vous dire. Dans les meurtres, il y a 32% de récidive. Autrement dit, 32% des gars qui sont libérés pour meurtre recommencent dans les 4 ans qui suivent leur libération. Mm-hmm. Mais il y a seulement 3% de meurtres graves. Donc il y a 29% de meurtres qui sont pas graves. C'est probablement le type qui tue sa belle-mère, ou qui tue un nazi, ou un fasciste, ou un électeur de Le Pen. C'est pas grave, ça. Ça, c'est pas grave du tout, vous pouvez y aller. Comment? Mais non, pas 97%. Il comprend rien. Hein.
J'ai l'impression
ce pauvre Philippe n'a pas l'esprit.
Statistiques le noient.
Il y a 32% de récidives, et sur ces 32%, il y en a 3% qui sont des récidives pas graves, pour le meurtre. Hein. Donc ça fait 3% de récidives pas graves.
C'est là où...
Enfin, plus de 3%, ça fait 9% de récidives pas graves, puisque c'est 3% de 32%, donc c'est... Enfin, bon, on s'est compris, c'est pas grave.
C'est là où on peut penser que la peine de mort est dissuasive. S'ils sont morts, ils recommencent pas après.
Mais c'est pas grave qu'ils recommencent, puisqu'ils vous disent que
oui,
c'est des meurtres pas graves.
Grave. D'accord, mais pour ceux qui sont graves.
Voilà. Donc, il n'y a que 3% des meurtres commis par des récidivistes qui sont graves. Il faut savoir ça, quand même. Les autres, c'est pas grave du tout. C'est plutôt rassurant. Moi, si j'étais assassiné un jour, je préférerais que ça soit pas grave plutôt que ça soit grave, vous voyez.
Oui.
Hein,
oui.
Vous me comprenez? Et puis, il y a l'affaire, alors ça, je l'évoque pour mémoire, pour vous montrer que comment fonctionne, vous savez, ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Vous avez entendu parler de la présomption d'innocence?
Oui, oui.
Tout
c'est
condamné
nous,
à mort,
c'est vous,
non, c'est
moi.
Pas ça. C'est tout présumé coupable et présumé innocent jusqu'au moment où il est condamné. Alors, en gros, c'est ça. Alors, il y a un monsieur, lui, qui a été présumé coupable, qui a été condamné et pratiquement exécuté. Et puis maintenant, mais personne à l'époque s'était occupé de savoir s'il était innocent ou pas. Il n'y a pas eu de présomption d'innocence. Et puis maintenant, on découvre qu'il était totalement innocent. C'est le buraliste qui, ouvrait les guillemets, n'aimait pas les Arabes, fermait les guillemets, et qui habitait la cité Montclar à Avignon. Et comme il y a un jeune Marocain qui a été tué d'une balle dans la tête dans la cité Montclar, les copains du jeune Marocain sont allés casser la boutique du buraliste, passer le buraliste à tabac. Le buraliste a été arrêté, il a été interrogé, mis en garde à vue. Puis finalement, on a été obligé de se résoudre à l'évidence. S'il n'était pas coupable, on l'a libéré. Il y a eu des manifestations dans la rue, ils ont tout cassé, ils ont tout brûlé, enfin comme d'habitude, quoi, les voitures, les cabines téléphoniques, tout ça, parce qu'ils trouvaient que la police n'allait pas assez vite pour arrêter le coupable. Alors finalement, là, qui était le coupable d'un meurtre raciste, parce que c'est un jeune arabe de 18 ans, un jeune marocain de 18 ans qui meurt, c'est forcément un crime raciste. Et finalement, ils ont arrêté le meurtrier, et voici ce que nous dit Le Parisien. Le meurtrier présumé de Mohamed Tajra, un jeune marocain de 18 ans abattu d'une balle de gros calibre dans la tête le 5 mars dernier dans une cité populaire d'Avignon, a été interpellé vendredi à Montpellier. Les policiers l'attendaient à la descente du bus qui le ramenait du Maroc via l'Espagne. Entendu par les inspecteurs de la brigade criminelle d'Avignon, le jeune homme de nationalité marocaine et dont l'identité n'a pas été communiquée a été présenté à un juge d'instruction avignonnais et écroué à la maison d'arrêt de Valence. Voilà. Mais en attendant, le buraliste, lui, il a perdu sa boutique, il a perdu son appartement, il a été obligé de déménager avec sa femme, terrorisé par les bandes ethniques. Voilà une belle histoire de présomption d'innocence. Nous allons maintenant recevoir nos premiers invités après une présentation musicale de rigueur. Bien, je reçois maintenant le docteur Marie-Christine Doge Geoffroy. Mm-hmm. Doge Geoffroy. C'est un bon exercice de prononciation.
N'est-ce pas?
Avec des cailloux dans la bouche, ça donne bien. Et madame Lydie Paulin avait dit. Alors, le docteur Doge Geoffroy est docteur en médecine depuis 20 ans, maître de conférences des universités et praticien hospitalier. Sa spécialisation en anatomopathologie, c'est-à-dire...
Disons que les chirurgiens et les médecins prennent un certain nombre de petits prélèvements aux malades et nous les envoient, qu'il s'agisse d'une biopsie de peau, qu'il s'agisse d'une opération, par exemple un sein, un poumon, etc. Et nous donnons le diagnostic.
C'est vous qui donnez le verdict?
Nous donnons le verdict par l'entremise d'un appareil qui s'appelle un microscope.
Alors donc, sa spécialisation en anatomopathologie a conduit le docteur Marie-Christine Doge Geoffroy à côtoyer sans cesse les problèmes de la mort et du deuil, s'occupant particulièrement de pathologies fœtales d'ailleurs, doit-on dire. Son rôle d'écoute auprès des familles et des médecins, son engagement personnel permanent en faveur d'un devenir humain meilleur l'ont conduite à effectuer cette recherche pratique en équipe. Son projet actuel dans les hôpitaux de Paris va non seulement vers l'aide aux mourants, bien connus actuellement, mais également vers l'assistance aux familles après la mort d'un proche. Alors ça, on verra... c'est un aspect très important de la chose. Quant à Madame Lydie Paulin Abadi, la naissance et la mort, naissance désirée dans une planification familiale librement choisie, mort paisible, assumée et consciente, tels sont les domaines où Madame Lydie Paulin Abadi a tenté sa vie durant. Voilà, c'est pas si vieux que ça, on a l'impression qu'on parle de quelqu'un qui va avoir besoin de votre livre.
Nous avons tous pas besoin de votre livre.
Le plus tard possible quand même. A tenté sa vie durant de participer et de collaborer de manière engagée à une amélioration des conditions de réalisation de ces deux pôles de notre vie physique. Membre de l'ADMD, Association du droit pour mourir dans la dignité, elle a rejoint les personnes avec lesquelles elle militait pour le planning familial il y a 25 ans, enseignante et mère de famille. Elle a, durant des années, accueilli et travaillé avec le groupe de recherche culturelle qui a écrit cette ouverture. D'ailleurs, si on m'avait dit que je recevrais un jour à ce micro une dame qui vient du planning familial et de l'ADMD, j'aurais dit, vous rêvez. Certainement pas.
Oui, ben, c'est très, voilà.
Mais justement, on va pouvoir comme ça confronter nos idées. Alors, bon, la première idée, la première question, c'est celle de, d'une espèce de coup d'audace, de défi que constitue la publication d'un livre intitulé « Assumer un décès et un deuil ». Et quand, dans la préface du livre, enfin dans les premières pages du livre, il est raconté que, voilà, je lis « Dialogue dans une grande librairie parisienne faisant figure de leader ». Je ne trouve rien dans vos régions au sujet de la mort. Ah non, on n'a rien, heureusement. Et pourquoi heureusement? Le jeune vendeur poursuit l'air gêné. Bof, c'est pas intéressant. Et hésitant, il ajoute, c'est pas marrant. C'est évident que c'est pas marrant, mais dire que c'est pas intéressant, c'est quand même une très belle démonstration de l'attitude actuelle de notre société en face d'un événement qui est le seul événement auquel on est certain de ne pas échapper.
Ça, hein? C'est sûr. On sait quand on vit, on ne sait pas quand on meurt, mais on sait qu'on meurt un jour.
Alors comment expliquez-vous, d'abord, première question, est-ce que d'après ce que vous avez étudié, la réflexion, là c'est peut-être plus Mme Paulin-Labbadie qui pourrait me répondre, mais docteur, vous pouvez prendre la parole si vous voulez, comment expliquez-vous cette attitude contemporaine en face de la mort, cette attitude de fuite, de refus, de négation? Et d'abord, est-ce que c'est une attitude contemporaine? Est-ce que vraiment, comme on a l'habitude de le dire, aujourd'hui, on a plus peur de la mort ou on nie plus la mort qu'il y a un siècle, deux siècles, trois siècles?
Il y a des différences selon les civilisations et les continents. Nous avions fait une étude préalable avant l'écriture de ce livre sur les différentes attitudes justement dans les pays du monde face aux morts et à la mort et au deuil. Or, je crois qu'en Occident, nous sommes particulièrement... contre nous ne voulons pas voir la réalité et nous ne voulons pas en parler.
Mais est-ce que c'est récent, d'après vos recherches, ou est-ce que c'est une tendance constante dans la civilisation occidentale, dans les civilisations occidentales?
Mais si on devait faire un historique de l'attitude en France, par exemple, ou en Europe de l'Ouest face à la mort, il y a eu des périodes différentes, avec des prises de position différentes. Mais je pense que le 19e siècle, fin 18e, 19e, a particulièrement occulté le problème et a brandi devant les gens des images assez effrayantes avec des craintes, des terreurs qui font que c'est resté dans un inconscient collectif bien ancré.
En revanche, pardon de vous couper, mais on célèbre cette année le 80e anniversaire du début de la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, je trouve qu'on ne le célèbre pas avec assez de solennité, mais c'est comme ça. Qui a été une période pendant laquelle des millions de tout jeunes Français se sont trouvés confrontés à la mort dans ce qu'elle est la plus atroce. Quand on lit le livre de Jean Droit qui s'appelle « Mémoire d'outre-mort », on est ahuri par ce que ces jeunes dans les tranchées ont connu, où on apprend par exemple que on accrochait le fusil par la bretelle à un bras gelé de cadavre qui dépassait du mur de la tranchée. Donc il y avait une familiarité totale avec la mort dans ce qu'elle est la plus terrible, et malgré ça, ça n'a pas banalisé, ou plutôt ça n'a pas cette familiarité n'a pas rendu à la mort son caractère d'évidence, et après on a continué, encore plus peut-être, à la refuser. C'est frappant de constater que dans l'expression artistique, que ce soit plastique, musicale ou autre, de la première moitié du XXe siècle, après la guerre, il n'y a pratiquement pas, sauf la danse avec la mort, il n'y a pratiquement pas d'évocation de la mort, qui était un grand sujet artistique, un grand sujet de peinture, dans les siècles précédents.
Oui, c'est certain. Il faut se souvenir aussi de l'épouvantable épidémie de grippe espagnole qui a tué pendant la guerre... Autant de monde que la guerre et des civils.
Oui. Il y a eu 1 500 000 soldats tués par la guerre, oui, et 1 500 000 soldats et civils
tués par
la grippe espagnole, qui était probablement une peste, on a
dit
d'ailleurs.
Oui, c'est ça, c'était pas franchement une grippe. Que les gens qui vont être atteints par la petite grippe A bientôt ne s'affolent pas, ce n'est pas du tout... Non, monsieur de Beckett, ce n'est pas la grippe espagnole que vous avez.
Vous rassurez.
Bien. Sur ce, il est de fait que, je dirais que la guerre a donné un coup énorme dans l'inconscient collectif, cette épouvantable der des der, qui était la guerre de 14, et... je crois que les gens, comme après un deuil, se sont précipités vers la vie, en voulant nier absolument cette mort. Et ils ont fait en fait un deuil pathologique. un deuil pathologique de ces 3 millions de morts.
Ce que vous appelez un deuil pathologique, c'est un deuil refusé.
Refusé, totalement refusé.
Alors, ça prend quelle forme? Parce que, qu'est-ce que ça veut dire refuser un deuil? Ça veut dire,
ils
sont pas morts?
Ils ont refusé la mort. Ils ont refusé cette notion de mort. Et ça s'est passé, je dirais, tout d'abord aux États-Unis. D'une certaine façon, nous ne faisons que suivre un peu les Américains. Il faut quand même se rappeler tous les soins thanatologiques que donnent les Américains à leurs décédés depuis 1900, hein, largement.
Oui, qui consiste à maquiller les cadavres.
On maquille, on fait quelque chose. C'est comme s'il était vivant. Vous allez voir, ça va être absolument extraordinaire. Et en fait, on refuse le fait que la personne soit partie, tout simplement. Ouais. Donc, après, ça a été pas seulement la mort, ça a été on refuse de vieillir. Alors là, c'est tout ce que vous connaissez, il faut se faire opérer, il faut rester mince, il faut rester beau, il faut rester jeune, sinon on perd son travail, sinon on perd son mari, on a une distanciation par rapport à ses enfants, donc il ne faut jamais être malade, et on a fini par occulter tout cela. Et je crois en fait que ce refus de la mort a été énorme dans les 30 dernières années. Et petit à petit, il y a eu... toute une autre partie qui a été justement, mais on refuse la mort, on refuse la maladie, mais il y a quand même des gens qui sont malades, qui vont mourir, et maintenant il faut les aider. Et ça a été par le biais des soins palliatifs, par le biais de l'aide à des gens qui sont malades, qu'on est revenu à se dire que quand même la mort ça existe et on peut pas s'en sortir. Il y a que voir, il y a quand même quelques années que certaines assurances proposent par exemple que vous prévoyez tout pour après votre décès, vous signez ici et vous payez d'avance tout. Il y a eu des publicités télévisées, mais ça fait pas tellement longtemps. Hein.
Je lisais hier soir un livre de, je crois que c'est Pérec, qui refusait de parler d'assurance vie, il parlait d'assurance mort.
Oui, c'est l'assurance vie pour les personnes qui en reçoivent, je dirais, les bénéfices. C'est-à-dire, on assure pour vie, pour que les enfants aient quelque chose, si jamais vous arrive quelque chose.
Alors là, j'ai une question qui nous vient de Saint-Jean-Bouche-d'Or, c'est-à-dire Philippe Varlet, qui dit « Quand on est catholique traditionnaliste, on se fout de vieillir ou de mourir ». Et Victoria, qui est à côté, ajoute « voir », dit Panurge. Alors, la question, c'est pas juste pour amuser, je dis ça. Est-ce que vous avez constaté, ou Madame Paulin va dire, est-ce que vous avez constaté, dans les gens que vous avez accompagnés, puisque ça fait partie aussi de votre activité, dans les gens dont vous avez accompagné les dernières heures ou les derniers jours, des différences de comportement liées à la foi, à un engagement religieux,
tout à
ou explicable. Oui.
Alors je vais vous dire qu'il n'y a pas que les catholiques traditionnalistes, parce que nous ne gardons pas dans les hôpitaux de Paris que les catholiques traditionnalistes. Nous avons également des musulmans.
J'imagine.
Nous avons également des gens de confession israélite. Nous avons également des protestants. Et essentiellement, et c'est vrai, ce sont les vrais croyants, ceux qui ont une foi profonde, et pas seulement, attention, parce qu'il y a des catholiques traditionnalistes, je vais peut-être dire une horreur et me faire absolument incendier en sortant.
Non, mais dans cette émission, on dit toujours des horreurs.
Attention, il y a des catholiques traditionnalistes qui ne sont pas de vrais croyants, qui sont catholiques, mais, je dirais, par habitude, et qui n'ont pas une véritable foi. Et je dirais que j'en ai vu, j'en connais, j'en ai dans ma famille. Et j'en ai aussi qui ont une véritable foi.
C'est pas joli de dénoncer à la radio.
Non, mais c'est pas grave.
Ils laissent pas dans leur tête.
Mais ceux-là, quand il n'y a pas une véritable foi, il y a peur. Il y a peur de ce qu'il y a après. Qu'en fait, il y a peur de l'inconnu. Et quand il y a véritable foi, quelle que soit la foi, il y a une croyance profonde, réelle, et il n'y a pas le peur.
Voilà, vous répondez avant à la question que j'allais vous poser. Vous avez rencontré des gens qui, au seuil de la mort, au moment de franchir, d'entrer dans l'espérance, comme disait la petite Sainte-Thérèse, au moment d'entrer dans l'espérance, sont vraiment dans la situation de quelqu'un qui va faire un beau voyage et qui est content.
Oui.
Vous avez rencontré ça?
Oui.
C'est extraordinaire.
Et je peux vous dire...
Parce que c'est une attitude qu'on imagine de façon littéraire assez facilement. Il y a même des gens qui disent, moi, le jour où ça va se présenter, j'affronterai ça avec tranquillité et tout. Mais on se dit toujours que ça, c'est peut-être un peu des rodomontades et que quand on va se trouver devant la porte, on va peut-être avoir peur de franchir le seuil.
Je crois que ce sont des gens qui ont longuement réfléchi et qui y ont pensé. Parce qu'on peut toujours avoir les rodomontades, oui, moi, je... etc.